Bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. En route, attention, ça va faire mal, mais ça va être bon.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié « Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum !»
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers, il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise pour des voyous de cette espèce. C'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses. Et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
Et pourtant, ça ne fait que commencer. Bonjour Elisabeth Rodinesco.
Bonjour.
Ne vous retournez pas, il y a Bruno Gagnère-Fontani et la prise de son qui est en transe dans le studio à l'écoute de Magali Noël qui chante « Johnny, fais-moi mal ». Alors, quelqu'un qui jouit d'être puni, est-il encore puni ?
Bon, c'est une question évidemment centrale. Ça dépend de ce qu'on appelle puni, ça dépend de la situation. Là, on vient d'entendre une chanson très drôle. Et quand c'est comme ça, dans des relations individuelles, qu'on peut appeler sadomasochistes, légères, non. Mais parce que la punition n'a pas du tout le sens de puni par la loi.
Surtout, elle est appelée de ses voeux. C'est le texte de Boris Vian, interprété par Magali Noël, elle dit « Fais-moi mal, tape-moi,
pour mais ensuite ça, le c'est regretter. » Ça s'appelle des jeux. Même pas pervers, ça s'appelle des jeux sexuels, que vous prenez le dictionnaire des perversions, il y en a 700 je crois. Ça relève au fond de l'individualisme, ça relève de quelque chose qui ne regarde absolument pas la loi, ni la sanction, parce que c'est entre adultes consentants. Nous n'avons plus aujourd'hui à nous mêler de ces affaires-là entre adultes consentants. Après, on peut discuter de...
Oui, c'est très difficile d'établir.
Alors, c'est pas si
quand
difficile.
Commence le consentement.
Et
quand
ça n'est pas si difficile que ça, en réalité. Parce que quand aujourd'hui, on est fort heureusement libre de sa sexualité, de pratiquer tout ce qu'on veut, d'aller dans des clubs échangistes, entre adultes consentants, ça marche. N'oubliez pas ce qu'a été le 19e siècle, qui réprimait tout, qui réprimait absolument tout. Donc maintenant, au contraire, on y voit beaucoup plus clair. Si un adulte punit un enfant, croit punir un enfant en lui flanquant des fessées ou des raclées, à ce moment-là, il n'est pas du tout consentant.
L'enfant.
L'enfant n'est pas consentant. Donc aujourd'hui, la loi, elle est bien faite. On punit quelqu'un qui est un bourreau, enfin entre guillemets, parce qu'il a... il a agressé sexuellement ou autre, pas forcément sexuellement, mais qui s'est conduit en bourreau avec une personne dont on est certaine qu'il n'est pas consentant. L'enfant n'est jamais consentant, puisqu'on considère qu'un enfant n'a pas la conscience d'être consentant. Ça, c'est une chose. Le viol est puni, tout ça est puni par la loi, et c'est une bonne chose. Donc là, en effet, quelqu'un qui jouit de faire mal. Après, je vais arriver à la victime. Là, la punition joue et elle est une bonne chose. La sanction par la loi, c'est la seule solution. Alors maintenant, si on entre dans un psychisme plus profond des gens qui ont été des victimes d'abus de tous ordres dans leur enfance, que ce soit la guerre, que ce soit les malheureux enfants soldats obligés de tuer, que ce soit des enfants abusés, à l'âge adulte, on se remet pas de ça. Enfin, on s'en remet, mais très difficilement. Et il faut une aide, et il faut des années pour s'en remettre. Et ça laisse des traces absolument épouvantables. Pourquoi ? Pas seulement, alors, dans certains cas, pas seulement parce qu'ils ont été victimes, mais c'est parce qu'on s'aperçoit que c'est inscrit dans l'inconscient et que quelque part, malgré l'horreur que ça produit, ils peuvent répéter ça. Il y a des gens qui ont été victimes d'abus et qui font des abus sur leurs propres enfants ou leur entourage.
Mais là, nous ne sommes pas dans le cas de la punition. Ce qui est intéressant, évidemment, là, on est dans le cas d'une victime objective, oui, claire, ce qui ne diminue en rien la douleur
peut-être
ressentie.
Mais
la question qui est vraiment intéressante, c'est celle de savoir quand on demande à être puni, quand la victime est consentante, que reste-t-il de la punition dès lors que les effets de la punition, la douleur que peut infliger, qui peut résulter de la punition, est souhaitée? Cette question, je vous la pose à vous, Elisabeth Rodinesco, parce que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle La part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers, publié aux éditions Albin Michel. Un livre dans lequel vous montrez la jouissance que l'on peut trouver, non seulement à faire le mal, mais aussi à recevoir, à souffrir en fait.
Absolument.
La jouissance de la souffrance,
absolument,
qui est directement liée à celle de la punition, puisque parfois la punition implique de souffrir. C'est ça qui est intéressant.
Là, il n'y a pas punition. Il y a demande d'être abusé. Enfin, demande de souffrir, demande d'avoir ce qu'on appelle, moi je ne peux pas appeler ça une punition.
Il y a une mise en scène pourtant justement qui oui, vise à recréer cette punition.
Ça s'appelle les scénarios sadomasochistes, vous en avait partout. Mmh. Alors après, donc il n'y a pas punition. C'est inscrit dans l'idée de la jouissance du mal. Mais là, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Il y a un couple. Il y a toujours en tout cas un maître, qui peut être un homme ou une femme. Il y a un maître. Et il y a celui qui se met en position de servir le maître. Vous avez des grands exemples, que ce soit Sade ou Sacha Majeur, c'est deux choses différentes.
Oui, on va y revenir.
Mais tous ces scénarios reposent évidemment sur le même postulat. Donc il n'y a pas de punition. La punition, elle est inscrite dans l'idée de se faire mal, de faire mal à l'autre, psychiquement ou même évidemment physiquement. Bon, ça c'est quelque chose qui est très connu, mais c'est pas une punition.
Mais il ne s'agit que de ça. Qu'on lise les textes de Zachar Mazok justement, et d'ailleurs on peut commencer par là. Et tout l'idée d'un contrat passé entre un dominant et un dominé de manière à obtenir la jouissance la plus intense possible a pour but de recréer les conditions d'une punition, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de punition réelle au sens où on n'impose pas quelque chose à l'autre, puisque c'est finalement la victime qui demande à être punie, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la punition est essentielle à la jouissance.
Absolument.
Est-ce que ça, c'est la définition de la perversion?
Oui, on peut dire que c'est d'une des formes de perversion, qui exclut en tout cas, et c'est toujours très intéressant parce qu'il y a contrat, que ça exclut l'amour, c'est évident. Tout est cadré, organisé, contractualisé. Vous avez ça dans l'univers de Sade. C'est-à-dire que tout est répétitif, d'un ennui absolument mortel aussi, si on réfléchit bien. Rien n'est plus ennuyeux que tous ces scénarios contractualisés.
Alors là, vous donnez raison. Alors, c'est pas la même chose. Le contrat est plutôt chez Zachar Mazok, mais c'est Foucault hein, qui parle de Sade comme étant, disant que Sade est d'un érotisme disciplinaire qui nous ennuie.
Mais c'est absolument vrai. Je suis d'accord avec cette position. Et elle suppose le langage. Il n'y a pas de Sade sans les écrits de Sade. Parce que si Sade n'avait pas écrit dans cette langue inouïe du 18e, s'il n'avait pas été ce personnage incroyable, au fond embastillé par tous les régimes, pour terminer sa vie à Charenton. Et si vous n'avez pas les textes, ça serait un vulgaire fouetteur de...
Bon, alors on va voir justement, on va écouter un texte de Sade, un extrait de la philosophie dans le boudoir. Je rappelle la citation de Foucault, hein, il parle d'érotisme disciplinaire en disant que Sade c'est un disciplinaire, un sergent du sexe, un agent comptable d'écus et de leurs équivalents. Écoutons un extrait de Sade pour voir ce qu'il en est. Alors attention, oreilles sensibles, s'abstenir, mais vraiment s'abstenir.
Ô ciel, pourquoi me rappelle-t-on du sein des tombeaux? Pourquoi me rendre aux horreurs de la vie?
Et vraiment, ma petite mère, c'est que tout n'est pas dit. Ne faut-il pas que vous entendiez votre arrêt? Ne faut-il pas qu'il s'exécute? Allons, réunissons-nous autour de la victime, qu'elle se tienne à genoux au milieu du cercle et qu'elle écoute en tremblant ce qui va lui être annoncé. Commencez, Madame de Saint-Ange. Les prononcés suivants se font pendant que les acteurs sont toujours en action.
Je la condamne à être pendue.
Coupée, comme chez les Chinois, en 24 000 morceaux. Tenez, moi, je la tiens quitte pour être rompue vive.
Ma belle petite maman sera lardée avec des mèches de soufre auxquelles je me chargerai de mettre le feu en détail. Ici, l'attitude se rompt.
Eh bien, mes amis, en ma qualité de votre instituteur, Moi, j'adoucis l'arrêt. Mais la différence qui va se trouver entre mon prononcé et le vôtre, c'est que vos sentences n'étaient que les effets d'une mystification mordante, au lieu que la mienne va s'exécuter. J'ai là-bas un valet muni d'un des plus beaux membres qui soit peut-être dans la nature. Mais malheureusement, distillant le virus et rongé d'une des plus terribles véroles qu'on ait encore vues dans le monde. Je vais le faire monter. Il lancera son venin dans les deux conduits de la nature de cette chère et aimable dame, afin qu'aussi longtemps que dureront les impressions de cette cruelle maladie, la putain se souvienne de ne pas déranger sa fille quand elle se fera foutre.
Tout le monde applaudit. On fait monter le valet, Dolmancé au valet.
La pierre, foutez cette femme-là. Elle est extraordinairement saine. Cette jouissance peut vous guérir. Le remède n'est pas sans exemple.
Au juste ciel, quelle horrible condamnation. Cela vaut mieux que de mourir, maman. Au moins, je porterai mes jolies robes cet été. Je crois qu'il est maintenant très essentiel que le venin qui circule dans les veines de madame ne puisse s'exhaler. En conséquence, il faut que Jenny vous couse avec soin et le con et le cul, pour que l'humeur virulente, plus concentrée, moins sujette à s'évaporer, vous calcine les os plus promptement. L'excellente chose. Allons, allons, des aiguilles, du fil, écartez vos cuisses, maman, que je vous couse, afin que vous ne me donniez plus ni frère ni sœur.
Madame de Saint-Ange donne à Eugénie une grande aiguille où tient un gros fil rouge ciré. Eugénie.
Alors, on a quand même une femme qui est pénétrée par les deux entrées, nous dit Sade, avec par le sexe d'un homme qui est infecté par un virus immonde. Et une fois la pénétration faite et la semence répandue, la femme va être recousue de manière à être sûre que le virus va calciner les os. C'est pas l'idée qu'on se fait d'une discipline du sexe quand même, Elisabeth Rosinesco.
Écoutez, ce que dit Foucault reste exact. Si, tout est organisé, mais... Il faut quand même ajouter, d'ailleurs, ce que Foucault et plus encore Barthes, Roland Barthes ont dit, vous voyez bien que tout ça est tout à fait lisible aujourd'hui, c'est d'ailleurs dans la Pléiade, à cause de la langue. Vous écoutez ça, c'est lu par des comédiens, c'est une langue absolument inouïe, qui n'a rien à voir avec le vocabulaire de pornographique d'aujourd'hui ou des sex shops où on dirait t'enculer, machin, on ferait ça aujourd'hui en tweet, hein, avec salope, je te...
Je veux dire, le seul intérêt de Sade, c'est la langue.
Mais bien
c'est
entendu.
Pas le fond. Il y a quand même toute une philosophie, surtout dans la philosophie dans le boudoir.
Oui, mais
ce qu'il décrit là est indexé sur un retournement de la morale
absolument.
Qui fait que ce qui était considéré comme bien devient le mal et qui fait que la nature devient la seule norme à l'action. C'est quand même une pensée philosophique
absolument,
qui se tient.
Absolument, ça n'a jamais été appliqué. C'est inapplicable. Autrement dit, Sade est même irreprésentable, on le représente au théâtre. Pourquoi ? Parce qu'on peut le lire. D'ailleurs, chaque fois qu'on a représenté Sade au théâtre, c'est le texte qui domine. Quand on a essayé, je pense que c'est le film le plus raté de Pasolini, quand il a fait les 120 journées, vous voyez bien que sur l'image, il n'y a rien. Parce que c'est pas représenté. Moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Sade est... Je dirais, est irreprésentable. Comment voulez-vous montrer tout ça? Ça n'est valable que dans la langue. Alors, si on se met à montrer tout ça, je parle là vraiment, soit au théâtre, soit au cinéma, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous avez tout simplement des scènes absolument ridicules.
Bon, ici, l'interprétation de Daniel Mesguich et Cécile Baquet, c'est en 2011, pour les
bien
nouveaux
sûr.
Chemins de la connaissance, rend justice au texte. Mais est-ce que ce que vous dites, Elisabeth Rosinesco, à la suite de Foucault, c'est que finalement, chez Sade, il y a une idée de punition individuel, mais qu'il n'y a pas de jouissance. Et qu'en fait, chez Sade, ce serait l'équivalent de ce qu'on appelle la pornographie, on ne jouit jamais vraiment, c'est-à-dire on ne jouit pas, on ne prend pas du plaisir à regarder ce
évidemment,
qui se passe.
Évidemment, tout se termine dans la mort. C'est la pulsion de mort à l'état brut, chez Sade, enrobée, enfin pas enrobée, c'est une langue. On ne peut pas interpréter ça d'autrement. Parce que si... Et c'est ça qui est absolument passionnant. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'écoute comme un texte. Et pas du tout comme la réalisation. Alors, la vie de Sade est fascinante, parce qu'il a quand même écrit tout ça en prison, en permanence. Sade était le si on veut le traduire politiquement, c'est l'individualisme anarchiste poussé à son degré le plus fou. C'est le contraire de ce que va être le nazisme. Hein. Quand on fait une préfiguration, c'est tout à fait ridicule. Sade, c'est, d'ailleurs, ce que Foucault et Barthes l'ont dit, c'est l'individualisme poussé à son degré le pire. C'est le marché par certains côtés du sexe. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les écrits, qu'est-ce que ce serait Sade ? Un petit pornographe de bazar, vous comprenez ?
Sauf si on, enfin là, si on réduit Sade aux descriptions d'actes sexuels comme celles qu'on vient d'entendre, peut-être. Alors c'est vrai que c'est surtout la langue qui fait l'intérêt du texte. Maintenant, le fait, le courage de nommer certaines choses qui n'avaient jamais été nommées n'est pas secondaire. Mais surtout, et j'y insiste, c'est que le texte s'appelle La philosophie dans le boudoir, et il y a une philosophie chez Sade.
Toujours.
C'est-à-dire que le geste là, ce qu'on a, on le situe du côté des lumières sombres.
Hein, lumières sombres.
Voilà.
Il a critiqué la totalité des régimes.
Mais c'est pourquoi il reste dans l'histoire, et pas simplement parce qu'il écrit bien.
Ah, s'il n'y avait pas les écrits, il ne serait pas resté dans l'histoire. Ça serait un
Mais ça, c'est vrai de tout écrivain. Il n'y a que les écrits qui font qu'il reste
dans
l'histoire.
Mais, en plus, semble-t-il, je ne suis pas une spécialiste, mais tous les grands spécialistes de Sade disent que c'est unique au monde. Il n'y a pas du tout l'équivalent ailleurs. Autrement dit, ça a été produit par le XVIIIe siècle, à un moment donné de la langue française, et il n'y a pas d'équivalent, parce que c'est en même temps le moment du trouble révolutionnaire. Je vous signale que donc le mot sadisme est inventé après, et que ce qui est très, très intéressant chez Sade, c'est que, évidemment, il est d'abord interné pour avoir fouetté, enfin il est interné sous l'Ancien Régime, il est libéré pendant la Révolution, puis réinterné, et à partir du moment où il y a une certaine liberté, on ne sait plus quoi faire de Sade. Comment fait-on ? Et à la fin de sa vie, il y a une grande discussion. Est-ce que Sade est fou ou pas ? Est-ce que ses écrits sont fous ? Et c'est de là que vient cette notion de perversion. C'est un demi-fou, diront les... C'est un demi-fou. C'est pas un vrai fou, puisqu'il délire pas, il n'y a pas... Alors, on va le mettre à Charenton, c'est-à-dire dans un asile d'aliénés. Et qu'est-ce que Sade fait à Charenton ? Il monte des pièces de théâtre avec les fous. Et il se fait d'ailleurs haïr jusqu'au bout par la totalité des gens qui sont interdits. Et il y a d'ailleurs toute une histoire qu'il faut lire avec un aliéniste qui, au contraire, défend la possibilité que Sade puisse jouer des pièces, puisque c'est quand même un instrument thérapeutique. Donc ça, des gênants partout, y compris quand on l'interne, on ne sait pas qualifier, et c'est de là que viendra cette notion de pervers, au sens de la psychiatrie, qui est demi-fou.
Hein, fou, pervers, parce... c'est un demi-fou. Un pervers est un demi-fou.
De pervers sexuel comme ça. Mm-hmm. Après, il y a d'autres définitions. Mais Sade écrit des choses folles dans une langue admirable. Dans sa vie, il n'est pas fou. Hein, mais il propose un système politique absolument irréalisable, qui est celui de l'inversion de la loi. Hein, c'est-à-dire l'inceste devient la norme, la famille est dissoute au nom de les pères doivent faire l'amour avec leur fille, les mères, enfin, tout est
sur un argument très clair qui est de dire que la nature elle-même tue. Dans la nature, il y a des morts, il y a des même ce qu'on pourrait considérer comme étant des assassinats. Certains animaux en tuent d'autres pour les dévorer. Pourquoi donc nous autres êtres humains devrions-nous nous exclure de ce code de la nature et donc instituons le meurtre et la mort comme étant des normes.
Oui.
Donc on renverse complètement. C'est pour ça qu'on parle du côté sombre des lumières.
C'est
la raison ne va pas élever l'homme.
Parce qu'il est matérialiste, parce qu'il défie Dieu. Voilà. Mais dans un monde où il n'y a pas de Dieu,
il n'y a plus de transcendance.
Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de transgression.
Alors justement, vous parlez de Dieu, Elisabeth Roudinesco. C'est intéressant parce que si on reprend l'exemple de ça, de la perversion d'un foutre contaminé qui va venir ronger les os d'une jeune femme, il y a d'autres personnes qui jouissent aussi de la maladie, du mal, et qui dans ce contact avec une plaie, par exemple, avec la maladie, vont cette fois-ci y voir le meilleur moyen de communiquer avec le Christ. Je pense aux mystiques, et vous en citez dans votre livre, hein, La part obscure de nous-mêmes, il y a certains exemples de mystiques, de femmes qui jouissent, par exemple Marguerite Marie à la coque, qui finit par manger le vomi des indigents, et qui, quand elle absorbe les matières fécales des malades, eh bien, considère que ce contact avec la maladie est la meilleure façon de rentrer en contact avec le Christ. Là, est-ce qu'on est en plein délire ?
Alors, c'est un grand débat. Est-ce que les mystiques, notamment les femmes, c'est plus les femmes que... Mais enfin, il y en a aussi des hommes. Est-ce que ces mystiques qui jouissent de, au fond, se faire pénétrer par Jésus, par Dieu, hein? Catherine Clément vient de d'écrire un livre sur cette question. Elle l'a universalisé. Mais moi, j'ai plutôt suivi l'enseignement de Certeau. Cette mystique chrétienne est fascinante. C'est toujours une révolte contre l'ordre établi, une révolte contre l'Église, contre ses normes. Elles vont être canonisées, souvent, ces mystiques. Alors, ça, c'est ce que j'ai appelé du sublime à l'abject. Mm-hmm. C'est-à-dire, on passe de l'abject, on sublime l'abject dans l'amour de Dieu. Et tout est possible. Devenir une ordure, ne plus manger, sucer les plaies des malades.
Ça, c'est Catherine de Sienne qui suce la plaie des malades dans des extases complètement mortifiées.
Alors, là aussi, les textes sont très intéressants. Alors, ça va de personnes illettrées à des personnes, au contraire, Sainte Thérèse d'Avila, les textes sont très étonnants. Mais c'est toujours la même chose. C'est pour ça que je les ai rangés dans Mes perverses, une autre forme. Mm-hmm. C'est la sublimation d'un état d'abjection. C'est-à-dire, le mystique, il se voit toujours comme un objet absolument abject face à Dieu. Il doit servir Dieu dans les actes les pires, hein, notamment dans la mystique chrétienne. Et c'est comme ça qu'il accède au fond, au délice de l'extase.
Et là, on retrouve l'idée de punition, de jouissance de la punition. Il faut se souiller pour accéder à une forme de sainteté.
On peut même se tuer. C'est très possible. Il y a des mystiques qui sont morts de jeûne, d'anorexie, et de fréquentation, de choses absolument horribles. Il y a l'exemple des flagellants, on en a parlé. Donc les flagellants. Alors, l'Église catholique, je vais me limiter à l'Église catholique, mais il semble que c'est universel. Hein. Être hanté, d'être pénétré par Dieu est quelque chose d'universel. Mais si on prend dans le catholicisme, c'est flamboyant. D'ailleurs, l'Église ne savait pas quoi faire de ces mystiques. Tantôt, ils ont été canonisés plus tard parce qu'ils ont en fait posé la réforme des ordres. Hein. En général, il y a ça. Ça peut être aussi des anciens libertins convertis à la mystique. C'est le cas d'Ignace de Loyola. Mais enfin, Ignace de Loyola a fondé un ordre. Hein. Mais il y a toujours cette idée chez tous ces grands... Alors, chez les grands mystiques, naturellement, ça confine à la folie. Et ça a suscité beaucoup de littérature.
Mais on va entendre un extrait de même de Thérèse d'Avila dans sa vie écrite par elle-même, où elle a le récit de cette extase mystique. On a la jouissance imprégnée de souffrance. C'est une expérience de ce qu'elle appelle la transverbération. Écoutez.
Je voyais près de moi, du côté gauche, un ange sous une forme corporelle. Il est très rare que je voie les anges ainsi. Il n'était pas grand, mais petit et extrêmement beau. À son visage enflammé, il paraissait être des plus élevés parmi ceux qui semblent tout embrasés d'amour. Je voyais donc l'ange qui tenait à la main un long dard en or, dont l'extrémité en fer portait, je crois, un peu de feu. Il me semblait qu'il le plongeait parfois au travers de mon cœur et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. En le retirant, on aurait dit que ce fer les emportait avec lui et me laissait tout entière embrasée d'un immense amour de Dieu. La douleur était si vive qu'elle me faisait pousser des gémissements. Mais la suavité causée par ce tourment incomparable est si excessive que l'âme ne peut en désirer la fin, ni se contenter de rien en dehors de Dieu. Ce n'est pas une souffrance corporelle, elle est spirituelle. Le corps cependant ne laisse pas d'y participer quelque peu, et même beaucoup. C'est un échange d'amour si suave entre Dieu et l'âme, que je supplie le Seigneur de daigner, dans sa bonté, en favoriser ceux qui n'ajouteraient pas foi à ma parole. Les jours que durait cette faveur, j'étais comme hors de moi. J'aurais voulu ne rien voir et ne point parler, mais savourer mon tourment, car il était pour moi une gloire au-dessus de toutes les gloires d'ici-bas.
Lorsque Thérèse d'Avila sent le long dard en or tenu par l'ange la pénétrer et qu'elle dit qu'elle voudrait continuer à jouir de ce tourment. On est ici dans une jouissance de la douleur, spirituelle est-il dit, une jouissance qui vient du fait qu'elle sait qu'elle est punie elle-même par le Christ. On a ici une articulation très précise.
C'est quand même le récit d'une pénétration. Mmh. Et probablement aussi... alors, il faut quand même dire que c'est de l'imaginaire, naturellement. Ces femmes n'avaient pas de relations sexuelles dans la vie. Hein. Tout est sublimé. Oui, c'est lié à une souffrance, mais une fois de plus, ce qui est intéressant, c'est le récit de ça. Sont-elles folles? La question s'est posée à la fin du XIXe siècle. Hein. Le statut de la femme mystique par rapport à la femme hystérique. Bon, ça continue à faire débat, bien sûr, mais cette folie, elle est sublimée par la foi. Donc, de toute façon, on peut pas trancher. Ça ne se termine pas forcément dans un asile psychiatrique. Alors, aujourd'hui, des choses comme ça, on les voit moins. Hein. C'est quand même lié à des grands textes. Alors oui, vous pouvez dire que la jouissance est obtenue par l'imaginaire de la punition, de la souffrance. Ça, c'est tout le discours du mystique, tantôt abject, tantôt sublime. Mais je maintiens que ça n'est que des choses imaginées. C'est de la littérature. Hein. Il faut qu'il y ait de la langue là-dedans. Alors, cela dit, les pratiques existent. Mais l'entrée dans la foi, en même temps, les empêche. Et les pratiques existent. Et les pratiques ont été interdites par l'Église. Je pense aux flagellations délirantes, les conduites d'autodestruction du corps. Vous pensez bien que l'Église, elle ne pouvait pas supporter ça. C'était pas possible. Voilà. Donc, ce sont toujours des personnages transgressifs. Et l'entrée quand même dans l'amour de Dieu empêche que les actes soient trop autodestructeurs. C'est mieux de le faire en littérature que de le faire dans la réalité.
Alors, certes, ici nous avons des exemples littéraires, mais la réalité n'est pas si éloignée de ce qui est décrit dans ces textes. On peut prendre un autre exemple, ici tiré du film La pianiste de Michael Haneke, qui est tiré du roman justement, où on entend une scène pour le coup. Alors, on va définir ensemble ensuite, Elisabeth Roudinesco, vous avez parlé du sadisme, le sadomasochisme, est-ce que c'est pas du tout la même chose? Écoutons la scène et ensuite on y revient.
Lis d'abord la lettre.
C'est pour ça qu'on a barricadé la porte.
Peut-être. Assieds-toi là, s'il te plaît.
Et en plus, enfonce-moi dans la bouche des vieux bas que j'aurais préparés. Enfonce-les si fort que je ne puisse plus émettre le moindre son. Ensuite, enlève le bâillon, s'il te plaît, et assieds-toi sur ma figure et donne-moi des coups de poing dans l'estomac pour m'obliger à t'enfoncer ma langue dans le derrière. Tu vas prendre ça au sérieux ? Si jamais tu me surprends en train de désobéir à tes ordres, alors frappe-moi, s'il te plaît. Même avec le dos de la main au visage.
Je te dégoûte, hein? Ce désir de prendre des coups, je l'ai depuis des années. Dorénavant, c'est toi qui choisis ce que je vais mettre. C'est quoi ta couleur préférée? Tu me l'as pas encore dit. Bah, dis quelque chose.
Erika, t'es malade. Faut que t'ailles te faire soigner.
Le texte d'Alfred Jelinek, on a ici la description d'une scène, alors certes fictionnelle, d'abord romancée, puis adaptée au cinéma. Rien n'interdit de penser que ce sont des types de relations qui existent véritablement.
Évidemment qu'elles existent.
Mais voilà, et donc c'est pourquoi l'intérêt de la langue que vous pointez et chez Sade et chez Thérèse d'Avila est bien réel, mais ce qui est décrit l'est tout autant.
Ce que je voudrais dire peut-être, c'est que c'est un film avec des acteurs. Quand on le regarde, on sait que ces acteurs ne font pas ça, et que c'est reconstitué. Ça donne cette grandeur au film, et ça donne au texte une force absolument extraordinaire. Si vous allez dans des boîtes d'échangisme où on fait des tas de choses comme ça, vous n'aurez pas du tout l'impression d'être devant un film. Vous partirez en courant. D'ailleurs, vous ne pouvez pas y aller, parce qu'il faut être soi-même.
Et pourtant, Haneke n'est pas connu pour épargner son spectateur.
Non, mais Haneke est un génial cinéaste. Le ruban blanc, c'est encore plus beau parce qu'on voit rien. Donc la perversion, elle est totale. J'aime beaucoup le ruban blanc parce que c'est ce qu'on appelle la pédagogie noire. Hein. C'est-à-dire cette éducation qui montre bien qu'a formé le nazisme. Ces enfants sont terribles. La pianiste, c'est un peu différent. On n'est pas dans le même contexte. C'est beaucoup plus la pathologie. On la voit. Mais je répète, peu importe que ça ait lieu dans la réalité, par ailleurs, qu'il y ait des clubs échangistes ou des pratiques qui existent comme ça, évidemment. Mais le film est un film, c'est pas un film pornographique. C'est la grande différence avec la représentation réelle dans des films qui seraient documentaires, pornographiques, etc. Là, on arrive à l'impossibilité de représenter. Vous pouvez pas vous le représenter. Donc, il faut l'art cinématographique pour parvenir à représenter les perversions. Vous l'avez évidemment chez Almodovar aussi. C'est des univers très particuliers, c'est des cinéastes qui savent montrer ça, mais j'insiste, c'est des comédiens. Ça n'est pas... C'est
mais est-ce que finalement, dans le cas d'une victime consentante qui en appelle à la punition, est-ce que ce n'est pas forcément un jeu de toute façon ? Est-ce que nous ne sommes pas toujours comédiens dans ce rapport de force qui conduit à la jouissance dans le cadre d'une relation dominant-dominée, justement ?
Je pense que dans la vie réelle, tout ça existe, mais je pense que le spectacle en est souvent sinistre. En tout cas, pour ceux qui ne participent pas...
Mais peu importe le spectacle, ici, c'est les rapports de force qui sont intéressants.
Absolument, mais je crois, bien sûr que tout ça existe. C'est pas quelque chose de généralisé. Hein. C'est quand même une sexualité très particulière. Les sexualités perverses, celles-là en tout cas, ont toujours été confinées dans des lieux clos. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a des formes de sexualité non perverses ?
Bah, bien sûr. Oui, enfin, tout n'est pas... Bien sûr. Ce qu'on définit comme sexualité perverse aujourd'hui, où on n'est plus du tout ni dans la morale, ni dans l'idée de condamner des pratiques sexuelles. C'est quand le corps, enfin le rapport entre deux personnes, n'est fait que de la jouissance de l'autre en tant qu'objet, et quand la subjectivité est entièrement supprimée. Là, on est dans l'univers de ce que Lacan appelle le réel, c'est-à-dire une sexualité purement objectal, et où toutes les parties du corps ne sont plus liées qu'à l'objet. Voilà, on va le dire de cette façon-là. Là, il y a en effet quelque chose qui peut s'appeler une perversion sexuelle, ce qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui serait un pervers et qui serait normal dans toutes ces conduites. Mais bon, c'est quelque chose, je pense, de très ennuyeux pour ceux qui ne pratiquent pas ça. Ça n'est possible qu'en univers de complicité. Ça forme un monde. Là-dessus, Sade avait raison. C'est un monde clos dans lequel ne peuvent se reconnaître que des affiliés de la secte, je dirais. Oui, m'en demandez pas, parce que j'ai jamais...
C'est intéressant.
Quand j'ai écrit mon livre sur les pervers, c'était parce que j'étais moi-même hors de ça. Et d'ailleurs, c'est pas du tout seulement un livre sur les perversions sexuelles.
Tout à fait.
À la limite, y a des très bons dictionnaires des perversions sexuelles. Ce que je voudrais dire, c'est qu'elles sont infinies. La capacité de l'être humain de s'utiliser comme objet et d'utiliser l'autre comme objet à l'infini est unique au monde. Il n'y a que l'être humain qui peut faire subir à lui-même ce qu'on décrit dans les dictionnaires.
C'est pourquoi il me paraît surprenant d'enfermer toute forme de perversion dans le domaine de la sexualité, dans le monde sadomasochiste, parce que pour le coup, on peut très bien considérer qu'il y a des moments, la sexualité est ainsi faite, qu'il y a des moments où la subjectivité de l'autre peut être objectivée. C'est temporaire, c'est pas le signe de la volonté d'anéantir l'autre.
Non,
c'est très difficile de statuer sur ces relations-là.
C'est quand même, à partir d'un certain moment, si on coud le sexe, si on se met des araignées et des rats dans le vagin, si on est capable de se tatouer la totalité du corps pour qu'il n'y ait plus du tout une parcelle visible de quoi que ce soit. Alors, c'est progressif, naturellement. Toute personne qui se fait 3 tatouages, elle n'est pas perverse. Bon. Mais si l'ensemble, c'est l'accumulation. Bon, ça peut être aussi la jouissance des cordiformes. Hein. Vous avez beaucoup de littérature sur la recherche par des pervers des corps absolument difformes. Il y a la nécrophilie, la nécrophagie. Bon, je vous renvoie aussi au classique de Kraft et Bing, la psychopathia sexualis. On est dans un monde absolument incroyable, où tout est possible. Alors, je crois qu'aujourd'hui, la question se pose de ce qui tombe sous le coup de la loi et ce qui tombe pas. Voilà. La violation d'une sépulture, aujourd'hui, elle tombe sous le coup de la loi.
La loi juridique, cette fois-ci.
Oui, au sens juridique. Voilà. La violation d'une... Quelqu'un qui est nécrophile ou nécrophage, hein, qui veut manger des cadavres, ou qui veut faire l'amour avec des cadavres, c'est puni, évidemment, comme violation de sépulture, violation du corps humain mort. Voilà. Mais on n'a plus du tout... Alors, la même personne qui se fait tatouer, qui se détruit, qui se fait des brûlures, qui transforme son propre corps en quelque chose de monstrueux, ça tombe pas sous le coup de la loi, plutôt sous le coup de la psychiatrie. Hein, vous voyez. Donc, alors maintenant, le sadomasochisme entre deux personnes consentantes, ne tombe pas sous le coup de la loi, et tant mieux.
Alors, vous venez d'employer le terme de sadomasochisme. Il est temps de faire entrer deux autres philosophes qui vont, à leur façon, définir ce qu'on entend par sadisme et par masochisme et par l'expression de sadomasochisme. Écoutez, Foucault qui interroge Gilles Deleuze.
Gilles Deleuze, je voudrais vous demander ce que signifie ce mot étrange et familier de masochisme.
Le nom de masochisme vient de Sacher Masoch, qui vécut en Galicie dans la seconde moitié du XIXe siècle et qui écrivit une œuvre fort étrange et importante. Le masochisme est connu comme une perversion. Le sujet masochiste cherche, réclame la douleur et il en tire un plaisir sexuel. Rien ne paraît plus mystérieux qu'une telle association plaisir sexuel-douleur. Le masochisme serait difficilement explicable si nous ne faisions pas intervenir certaines conditions dans lesquelles la douleur est recherchée. Les conditions formelles sont au nombre de quatre. La punition comme principe de la douleur, la passivité comme attitude de l'orifère, le fantasme comme valeur autonome, le contrat comme condition préalable. Il y a donc dans le masochisme une véritable ritualisation de la douleur, une sorte de passion rituelle. Tout le problème du masochisme devient, comment ces rituels expliquent-ils le contenu apparent du masochisme, c'est-à-dire l'association douleur-plaisir sexuel. Or, normalement, une punition vient sanctionner un plaisir défendu. Comme tel, la menace de punition appartient à la loi. Nous devons constater que le masochiste opère un singulier détournement de la loi. Il met la punition d'abord et fait comme si la loi lui permettait alors et même lui ordonnait d'éprouver le plaisir défendu.
Vous écoutez bien France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de jouissance du mal aujourd'hui, de jouissance de la punition en compagnie d'Elisabeth Roudinesco qui a écrit La part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers aux éditions Albin Michel. On vient d'entendre la voix de Deleuze qui propose cette définition du masochisme. C'était le 3 avril 1963, interrogé par Michel Foucault lui-même. Deleuze définit le masochisme comme étant ce qui détourne la loi. On pourrait aller même plus loin à partir de ces termes, Elisabeth Roudinesco, et dire que, en réalité, le masochisme est la perversion de la punition elle-même. C'est la punition qui est pervertie dans le masochisme.
Je suis toujours très émue d'entendre Gilles Deleuze, j'ai été son élève plus tard, hein, entre 69 et 72. Vous voyez cette merveilleuse voix, cette façon d'enseigner. Donc on est toujours touché. Alors, évidemment, la thèse de Deleuze, qui par certains côtés a été un peu celle de Freud, mais autrement, c'est que le masochisme, c'est pire que le sadisme. Pourquoi ? Parce que c'est le retournement contre soi-même de toutes les horreurs. C'est-à-dire, c'est la demande de la victime, entre guillemets, d'être toujours sadisée. Alors ça, Haenecke l'a très bien montré aussi. Et donc, c'était ça ce que disait Deleuze. Et Freud avait déjà dit, hein, dans Sadomasochisme, que le pire était évidemment le masochisme. Un très beau texte, hein, de ça. Je vous rappelle que Freud n'avait pas lu Sade, ne connaissait pas bien Sacha Masoch. Il était un petit peu gêné avec ça, parce que pour lui, il a eu des pervers sexuels en analyse. Il y en a eu. Bon. Mais ce qui l'intéressait, c'était tout à fait autre chose. Il faut quand même le dire ici, quoi. Ce qui intéressait Freud, ça a été sa nouveauté, c'est qu'est-ce que c'est qu'une structure perverse, au-delà des perversions sexuelles. C'est pour ça que je fais une histoire des pervers. Et on peut dire les perversions, la perversion. Vous avez des pervers, ce qu'on appelle aujourd'hui d'un mot absolument un peu ridicule, pervers narcissique, bien que le thème
qui est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui
et du pervers peuvent être reliés, ce sont des gens qui jouissent du mal en permanence, mais qui n'ont pas de perversion sexuelle. C'est purement psychique. Quelqu'un qui va ne pas vous toucher, ne pas vous... Mais dont le langage, la manière de faire, l'intrusion, la manière de se comporter est d'une perversion noire, c'est-à-dire pousse la victime, qui peut être tout à fait masochiste, à faire elle-même des actes absolument insensés pour lui obéir, mais sans caractère sexuel visible. Donc ça devient... C'est tout à fait autre chose. Autrement dit... il faut séparer ensuite ce qu'on appelle la structure perverse, hein, qui peut jouer sur toutes sortes de choses, mais on va retrouver le côté, on va retrouver une analogie, et puis les perversions sexuelles. Vous avez des gens qui ont des perversions sexuelles, et puis qui par ailleurs dans la vie sont pas du tout pervers.
C'est Freud qui invente le terme de sadomasochisme, qui les met ensemble.
Il les met ensemble d'une certaine façon.
Dans les trois essais sur la théorie sexuelle.
Absolument. Hein. Il les met ensemble d'une certaine façon, mais parce que, pour Freud, il le psychise. Hein. C'est pas forcément sexuel. Je crois que là, ce qui a été intéressant avec Freud, c'est de donner une universalité à quelque chose. À la fois, il retrouve le caractère sexuel au fond, mais il sort de la sexologie. Aujourd'hui, si vous lisez Crafty Being, vous avez l'impression d'un traité littéraire, un juridico-littéraire. Quand vous lisez Freud, vous avez l'impression d'être vous-même, avoir eu les tendances les plus perverses. C'est-à-dire que Freud montre que chez tout être humain, il y a des fantasmes pervers.
Voilà, il écrit « Quiconque éprouve du plaisir à générer chez autrui de la douleur au cours d'une relation sexuelle est également capable de jouir comme d'un plaisir de la douleur qui peut naître des rapports sexuels. Un sadique est toujours en même temps un masochiste, même si la face active ou passive de cette perversion peut être plus fortement développée chez lui et constituer une activité sexuellement dominante.
Oui, »
Les deux vont de pair.
Bien sûr, ça c'est nouveau, c'est Freud qui dit un sadique est toujours un masochiste. Et donc, c'est le masochisme primaire qui domine. C'est-à-dire, celui qui fait le mal, il fait le mal à lui-même aussi. C'est-à-dire,
Il impose à autrui ce qu'il aimerait qu'on lui impose.
Absolument.
Du coup, il ne reconnaît pas ce désir d'être lui-même.
Là, on n'est pas forcément dans la sexualité pratique. Hein. Uh-huh. On quitte ce domaine-là et on est beaucoup plus là dans quelque chose de psychique qui est encore pire. Qui est par certains côtés encore pire.
C'est la jouissance de punir l'autre. C'est pas simplement la jouissance d'être puni.
La jouissance de punir transformer autrui. L'autre en objet d'horreur, d'insulte, d'injure, voilà. Et il peut y avoir cette perversion qui est de jamais même en jouir sexuellement. Vous avez des grands pervers qui veulent surtout pas avoir un rapport sexuel, mais qui vont tourner autour.
Et on peut l'expliquer.
Ce qu'on appelle pervers narcissique.
Et on peut l'expliquer la source de cette jouissance perverse.
Oui, bien sûr, probablement, mais ils viennent pas beaucoup en analyse. Mais enfin, du point de vue clinique, oui, il y a forcément dans l'enfance, ils ont forcément toujours été eux-mêmes traités comme objet, sans l'absence totale d'amour qui existe, hein, le fait d'avoir été traité comme objet dans son enfance. Vous avez un très beau livre de Leonard Shingold que j'aime énormément, qui s'appelle « Le meurtre d'âme », hein, et qui a écrit des cas cliniques absolument inouïs, qui a eu des cas comme ça. Vous en avez chez Michel de Muzan aussi, et qui décrivent l'enfance de ces êtres-là qui ont été meurtris dans leur enfance, mais qui peuvent avoir été meurtris pas par des abus sexuels réels, mais par une absence totale d'introduction à leur subjectivité. Des enfants très bien traités en apparence, mais à qui on donne plein de cadeaux, s'occupe pas d'eux, on les traite comme objets, etc. Ça existe, bien sûr. Et ça, c'est souvent ça qui est à l'origine de ce comportement. Il faut toujours aller chercher quand même dans l'enfance hein, ce qui est arrivé à quelqu'un. Sinon, on ne peut pas expliquer.
Là, jouir du mal que l'on fait à origine...
En se faisant le mal à soi-même, voilà. Parce qu'on a été soi-même traité comme un objet, je dis bien un objet, hein, sans subjectivité.
Mais ce qui explique pas, ça n'explique pas la jouissance de ce mal, qu'on soit enclin à répéter l'action qui nous a fait souffrir. Pourquoi est-ce qu'on en jouit?
Ah, ça c'est vrai que c'est le grand mystère.
Parce qu'on se met à la place du bourreau, peut-être, enfin, à notre tour.
C'est un peu trop psychologique, ça ouais. Se passe dans l'inconscient. Mmh. Je dirais pas que tous les enfants maltraités dans leur enfance remaltraitent quelqu'un. Parce que là, il faut faire intervenir que quelquefois, il y a tellement de substituts auxquels ils peuvent se raccrocher. Un substitut, une grand-mère, une voisine, n'importe qui. La force de ma mère l'a démontré dans les années 50 quand elle s'est occupée d'enfants abandonnés. Où il n'y avait rien, ils étaient abandonnés à la naissance. Et on peut se raccrocher à un substitut, il suffit de les humaniser, il suffit de faire quelque chose, et ce substitut va jouer. Homme, femme, n'importe quoi. Du moment qu'il y a un substitut de langage qui peut les amener à une subjectivité, et non pas à se maltraiter comme objet en maltraitant les autres comme objet.
Un grand merci à vous, Elisabeth Roudinesco, d'être venue nous parler de la jouissance du mal dans la punition aujourd'hui. La part obscure de nous-mêmes, une histoire des pervers. On insiste à la fois sur le singulier et sur le pluriel. Aux éditions Albin Michel, c'est le titre de votre livre. Je peux renvoyer également à votre ouvrage Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre aux éditions Seuil. Et puis, va sortir l'automne prochain un dictionnaire amoureux de la psychanalyse. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie et ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Dracula.
Oui, c'est ça. Vous avez parlé de pervers, demi-fou. Alors là, on est vraiment dans la folie. C'est Dracula ou la croisade des temps modernes. C'est un essai sur la figure de l'étranger par Farhad Khodabandelou et c'est paru aux éditions Fayard.
Hier, tandis que la diligence me conduisait ici, je me rappelle distinctement avoir eu la sensation de quitter l'Ouest pour m'enfoncer dans l'Est. À peine finissaient les collines du Mittelland que les pics des Carpates surgirent devant nous. Le soleil diminua et les roches escarpées furent avalées par l'ombre et la nuit. Je me sentis gagné par une peur irraisonnée, une frayeur d'enfant.
Du roman de Bram Stoker, publié à la toute fin du 19e siècle, on retient surtout Dracula, le comte vampire des Carpates. Dracula ne serait pourtant personne sans un autre à vampiriser, à absorber dans son univers, à dominer totalement. Et la voix que l'on a entendue à l'instant est bien celle de Jonathan Harker, le jeune clerc de notaire venu pour affaires qui voit sa vie se transformer en cauchemar dès qu'il pénètre sur les terres de Dracula. Mais à quoi ou à qui doit-on précisément attribuer cette transformation en cauchemar, ce passage de la rationalité, du monde moderne et civilisé au monde de l'étrangeté, où les routes n'ont plus de sens, où les démons hantent tous les détours et où, lorsque minuit sonne, la sauvagerie prend le dessus. Doit-on cette folie à Dracula ou au jeune Harker, dont on ne connaît l'identité que par les bribes de son journal, dont on ne sait s'il est tout aussi fou ou au moins perméable à la folie du monde dans lequel il a mis les pieds? Eh bien, c'est cette perméabilité entre la raison et la folie, entre le familier et l'étrangeté, qu'explore Farhad Khodavandehloun dans cet essai « Dracula ou la croisade des temps modernes ». Et c'est bien ce personnage de Harker plus que celui de Dracula. Et même, c'est dans la tête de Harker que nous sommes plongés, de son départ de Londres jusqu'à son départ brutal du château de Dracula, en passant par l'angoisse qui l'envahit au fur et à mesure de son périple. Mais dans l'esprit de qui sommes-nous en fait vraiment plongés? Telle est bien la question et telle est bien la question que soulève cet essai. Car tout en décrivant parfaitement les événements qui lui arrivent, ou tout en décrivant parfaitement les événements qui nous arrivent aussi à nous, sommes-nous sûrs, tout comme Harker, de bien tout le temps déceler leur logique? En étant sûrs de nous, de notre raison, de notre identité, en étant sûrs, grâce à tous ces moyens, de bien appréhender ce qui nous entoure, sommes-nous pour autant parfaitement assurés qu'il ne s'agit pas de pure apparence qui s'effrite dès lors qu'elles sont décentrées? Entre nous et le monde, lequel nous est donc le plus étranger et le plus étrange?
C'est bien la question, Géraldine. C'est passionnant, en tout cas. Dracula ou la croisade des temps modernes?
Et c'est sur la figure de l'étranger, c'est de Farhad Khodavandehloun et c'est paru aux éditions Fayard.
Je vois Elisabeth Rudinesco qui acquiesçait tout le temps de la chronique.
Alors, j'ai pas lu ce livre, mais Dracula, bien entendu, est un grand classique. C'est l'introduction quand même du darwinisme, parce que c'est l'animalité qui est en question.
Je crois aussi que vous acquiesciez au froufrou de la chemise de Géraldine, mais c'est un autre sujet. Merci à tous, les chemins de la philosophie touchent à leur fin. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine sur la punition. On parlera de Beccaria, des délits et des peines, en compagnie de Philippe Audejean. Pour réécouter cette émission ainsi que la chronique de Géraldine, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Un grand merci à Livia Garrigue qui a préparé cette émission, à Antoine Ravon, Marianne Chassor, Nicolas Bouteloup, Olivier Bétard à la réalisation de cette semaine, Bruno Gagnère-Fontani à la prise de son. Un merci à Lucie Tardy aussi, dont la présence était bien réelle